Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, mes chers docteurs, sortent de la salle d'opération Hilar. Ils se bidonnent, rient à gorge déployée, sont secoués de spasmes. Ont-ils fumé la moquette de la salle d'attente ? Ou encore respiré des gaz anesthésiants qui agiraient sur leur zygomatique ? Non, il s'agit seulement du thème de l'opération du jour. Peut-on rire de tout ? Avec eux, apparemment, c'est le cas. La clinique semble même être un de leurs sujets favoris pour se dérider la face. Peut-on rire de tout ? À cette question, il faut rajouter « avec n'importe qui ?» Donc, en une seule phrase, peut-on rire de tout avec n'importe qui ? Cette interrogation n'est pas nouvelle, elle hante quasiment tous les humoristes depuis des lustres. On s'arrête, où s'arrête le rire, la dérision, le pamphlet, et où commence l'interdit et l'insulte ? Nos docteurs vont nous livrer leur diagnostic sur cette interrogation existentielle. Molière, La Fontaine et quelques autres se permettaient beaucoup dans la caricature et la dénonciation des pouvoirs, mais quel talent ! Avec eux, on pouvait se moquer de tout, car on n'était pas avec n'importe qui. Beaucoup plus récemment, les humoristes, pour n'en citer que deux, les regrettés Coluche et Pierre Desbroges, allèrent très loin dans le rire de tout, sans qu'on ressente le besoin de se boucher les oreilles. De nos jours, les humoristes sont bien plus frileux. Depuis l'avènement du rire à la chaîne, on rit toujours souvent de la même chose et l'on décline à l'infini avec plus ou moins de savoir-faire les mêmes gags sur la vie des gens. Donc, pour ces humoristes-là, on peut rire de tout, puisque ce tout est très restrictif et ne risque pas de faire de vagues. Certains l'avouent, ils s'auto-censurent afin de vivre leur métier d'amuseur sans passer leur vie dans les prétoires. La morale et la censure ont toujours été proches du rire et du pouvoir. Les dictatures n'aiment pas les humoristes, mais à propos, et les démocraties ? La récente affaire Dieudonné est un exemple bien intéressant sur les limites fixées par la loi pour les uns, sur la censure cachée pour les autres. Mabuse, House et Jekyll ont certainement leur opinion sur ce sujet et nous l'attendons avec impatience. Nous les écoutons, enfin, quand ils auront fini de se tordre de rire. Mabuse.
Eh bien écoute, cher Candide, je vais reprendre tes propos. Peut-on rire de tout ? Oui, répondait Pierre Desbroges, mais pas avec n'importe qui. En fait, la question devrait être... Faut-il rire de tout ? C'est toute la nuance entre la liberté de rire plus ou moins octroyée par la société dans la limite de sa morale et l'autocensure de celui qui l'écoute. Il est évident que ce qui se disait il y a 30 ou 40 ans est devenu inacceptable aujourd'hui. Quid des sketchs de Coluche sur les Arabes, les Juifs ou les Noirs ? Un Belge sous-entendu entre guillemets anormal est-il plus acceptable qu'un Arabe anormal ? Le rire est peut-être le propre de l'homme, mais uniquement sur le flanc physiologique. C'est l'humour qui est en question. Le vrai constat à faire de ce que l'actualité révèle est sans doute l'émergence d'un nouvel ordre moral avec ses censures et ses sanctions. Bien sûr que les propos antisémites de Dieudonné sont condamnables, mais ce n'est pas son humour qui est en cause, mais son discours propagandiste et négationniste de la Shoah. Mêlé d'ambiguïté et de vérité, entre guillemets, il laisse croire que l'Holocauste serait une conséquence juste de ce qui aurait été inévitablement initié par les victimes. Pourquoi le gouvernement qui vient de condamner les clients de la prostitution ne condamne-t-il pas les spectateurs des spectacles inacceptables pour lui ? Mais les limites de l'acceptable sont très relatives. Lisez ce « Que sais-je ?» remarquable de Klatzmann, lui-même juif, sur l'humour juif, et vous verrez que, même si vous riez de tout, vous n'oserez pas raconter certaines de ces histoires sous le prétexte qu'elles se moquent des rabbins, des règles de la religion ou des rapports des juifs à l'argent. C'est ce que j'appelle l'autocensure. La loi ne sanctionne pas l'humour, mais la propagande négationniste. Ce n'est donc pas le rire qui est en question, mais le discours politique. Tout est là. Garde-t-on en mémoire la réponse de Coluche à RMC à un auditeur qui lui reprochait de se moquer des déportés et qui lui expliquait que son père était mort dans un camp de concentration parce qu'il était tombé d'un mirador. Oseriez-vous raconter des histoires belges en Belgique, corse en Corse ou arabe en Algérie ? Souvent, l'humour consiste à mettre en évidence les défauts de celui dont on se moque. Dedonné a pris les juifs pour cible, non pas pour leurs défauts, mais simplement parce qu'ils étaient juifs. Ces propos sont donc ne sont donc pas de l'humour, mais de l'antisémitisme, et par là même condamnables. Il suffit simplement d'appliquer la loi. L'humour, dans la période de crise que nous vivons, reste, à mon avis, le seul endroit où la critique du système peut s'exprimer de manière acceptable. Sa répression plus ou moins forte est sans doute un bon critère sociologique de la répressivité d'une société. L'humour, c'est le détournement du sens, l'affirmation décalée des vérités. Il reste le seul espace de liberté entre la critique et parfois le cynisme. Il doit être la possibilité de rester lucide face au fonctionnement de la société. Il ne peut pas être limité à l'autodérision. Alors, camarades, rions de tout, mais finalement avec tout le monde, prouvant par là notre capacité à surmonter nos différences et à reconnaître qu'un con est un con, qu'il soit catho ou athée, noir ou blanc, arabe ou juif, homme politique ou énarque. Mais ne se moque-t-on pas des cons simplement pour se prouver qu'on ne l'est pas ?
Ah, voilà une bonne question. On y reviendra certainement avec nos autres docteurs, mais après cette brillante introduction de notre docteur Mabuse, on va demander au docteur House peut-être de résumer un peu plus succinctement.
Ah, moi, je fais dans le consigne, parce que l'humour doit être court.
Pour qu'il soit meilleur.
Pour être meilleur, oui. Non, la liberté d'expression, au-delà même de la question des susceptibilités, et quelle que soit la cible, est un droit inaliénable. Au nom de la jouissance de cette liberté, l'on peut rire de tout. Mais les terrains sur lesquels l'humoriste s'aventure ne sont pas tous de même nature et ne sont pas tous facilement accessibles pour dérider les égomatiques. Il en est même de certains de boueux, fangieux, où il convient que l'humoriste se dote de raquettes, de talents, pour n'éclabousser personne et surtout ne pas s'éclabousser lui-même. L'humour est le véhicule de la convivialité, de la cordialité, de la fraternité. L'humour implique la propreté. Et l'art de faire rire exige sensibilité et humanité et doit ignorer arrogance, mépris et haine. Le militantisme de l'humoriste et celui du parti du rire. Autre chose, celui qui prétend utiliser un humour sectaire comme un outil militant. Il ne suscite que grimaces et rires jaunes. Avant de parler, demandez-vous si ce que vous allez dire est drôle ou utile. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, taisez-vous.
Et oui, ça c'est une belle leçon que vient nous donner le docteur House, qui pour une fois ne riait pas beaucoup dans son discours, mais ça reviendra tout à l'heure.
L'humour est un sujet sérieux.
qui doit être traité par des gens sérieux. Alors donc, puisque nous sommes avec des gens sérieux, mon troisième docteur qui était, je ne sais pas, parti encore dans la salle d'opération récupérer des bistouris qu'il avait oubliés probablement dans le ventre d'un de ses patients, comme d'habitude, le revoilà qui arrive, le docteur Jekyll, pour la troisième partie de ce « Peut-on rire de tout ?»
Dis-moi de quoi tu ris, mais je te dirai qui tu es. Non, non, tu ne sauras pas qui je suis, monsieur. Parce que moi, je ris de tout. Et qui plus est, avec n'importe qui. Et puis je t'emmerde, toi l'interlope pensante sortie du braquemar, du politiquement correct et de la foufoune de la pensée unique. Et tu veux savoir quoi, ouais mon gars ? On peut rire de tout avec n'importe qui, à la condition expresse de ne pas être n'importe qui. Et de ne pas craindre les pendeurs mal défranquisés qui veillent au respect stalino-vichysois des lois dites de la République au mépris de la démocratie. Et parvenu, excusez le mot, à un certain stade, excusez le mot, je finirai, avec un S, par craindre de prendre le train, excusez le mot, en marche. C'est pourquoi je vais vous entretenir d'un autre sujet, moins polémique, plus républicain, un sujet culinaire, un sujet lyonnais, presque bocusien. Mesdames et messieurs, provoscopiennes et provoscopiens, divergentes et gens divers, calez-vous dans un fauteuil muni de quelques apéritifs et amuse-gueules et oyez attentivement ce qui suit. Vous allez avoir le privilège d'apprendre comment on cuisine la quenelle. Un sujet qui aurait pu sortir de l'imagination d'un jury de Sciences Po à l'époque où ces gens-là, mesdames et messieurs, avaient encore le sens des mots. Je parle d'une époque qui avait le bonheur de ne pas subir les lois mémorielles, dites lois Guesso. C'était le temps des deux Allemagnes, le temps du mur. Le mur ! Ah non, pas celui de Dieudonné, celui de Berlin, le vrai ! Tiens, en fait, savez-vous qui avait pour surnom Dieudonné ? Et Louis le Grand, le 14e du nom, le roi soleil. Eh merde ! Enfin bon, c'est pas tout ça, revenons à nos quenelles. Seuls les déculturés de la place Beauvau croient, faute de penser, qu'il s'agit d'un geste. Ceux-là ont le niveau intellectuel d'un footballeur croisé avec Nabila. Non, mesdames et messieurs, il s'agit d'un plat dombé dans les casseroles de quelques préparateurs, composé de restes volaillés, voire de poissons pêchés en eau trouble entre Saône et Rhône. Et c'est quoi cette recette confondue avec quelques signes plus ou moins inversés d'un pseudo-nazisme de comptoir ? Bougez pas, m'en va vous le dire. Or, les ingrédients franchouillards de base, eau, sel, farine, bœuf et beurre et œuf, il faut du poisson à chair blanche, et merde, et de la volaille. Le poulet, espagnol, fera l'affaire. Là où ça se gâte, c'est que la pâte obtenue s'appelle la panade. Et ouais, on y est, dans la panade, avec la quenelle. D'autant que c'est là que ça se corse, enfin c'est une expression. Il faut qu'elle gonfle, la quenelle. Et si elle gonfle pas, eh ben elle sera pas digeste. Pire, dès qu'elle est agrémentée d'une sauce blanche de préférence, et merde, il faut la passer au four. Non, si si. Et attention de ne pas la faire cramer, juste gratiner. Alors, il est où le problème ? Je n'aurais plus le droit d'aimer les quenelles de poulet gratinées au four ? Vraiment, ça fait du bien de rire ensemble, de tout et avec n'importe qui, non ?
Eh oui, ça a fait du bien de rire de tout avec n'importe qui grâce à notre docteur Jekyll. Notre docteur Jekyll donc, qui nous a donné une bonne recette de la quenelle lyonnaise. Ça peut être aussi une quenelle sauce nantois, un petit peu plus haut dans le Jura, là, hein, vers Nantois. On faisait ça avec les brochets, si je ne m'abuse.
Oui, ça c'est quand on pêche en eau trouble.
Oui, en eau trouble.
Ce
oui,
que
oui.
Je me garderais bien de faire.
Oui, oui, oh, c'est pas de votre genre, docteur. On sait très bien que vous êtes quelqu'un de très droit, très moral, très moralisateur.
Je préfère déguster du poulet, même espagnol.
Oui, et de la viande halal aussi. Il n'y a aucun problème, je suppose.
Non, non, elle était saignée et ça...
Ça c'est moins bien. Bon, alors nous allons revenir avec nos trois docteurs maintenant pour une discussion sur ce sujet. Sur ce sujet que nous avons abordé d'abord par trois discours, enfin quatre avec le mien. La mouche se permet des choses quand même des fois. Elle permet même de faire un petit discours avant les docteurs. C'est pour dire si la mouche prend de l'importance parfois. Alors, on revient avec nos docteurs et on va les laisser disserter entre eux sur « peut-on rire de tout, vraiment ?» Et où sont peut-être ses limites ? Est-ce que c'est la République qui doit définir ses limites, par exemple ? Je vous laisse discuter. Qui veut relancer l'affaire ?
Moi, je veux bien commencer le débat sur cette question. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Et c'est la différence que je faisais dans mon propos liminaire. C'est il y a l'humour qui traite effectivement des défauts des uns, des décalages, etc. Et le fait qu'on puisse confondre, et le cas de Dieudonné est un exemple parmi d'autres, on puisse confondre l'humour et le côté propagandiste remettant en cause des vérités de l'histoire. Donc c'est ça le vrai débat, c'est-à-dire...
Guy Bedos n'a jamais été condamné.
Mais Guy Bedos n'a pas tenu de propos de ce type.
Non, certainement pas.
Mais non, mais des propos engagés politiquement qui n'étaient plus de l'humour, qui étaient du meeting politique.
Ça n'a rien à voir. Il le faisait effectivement avec, je sais pas, une espèce de faconde, critique, etc. Mais pas sur le principe de la propagande, négationniste.
Excusez-moi, quand il traite Nadine Morano de conne. C'est pas la même chose que quand Dieudonné va jusqu'à faire une apologie de l'antisémitisme. Nous sommes bien d'accord. On peut traiter Morano de...
L'antisémitisme est une chose, mais le négationnisme est une autre chose. Le négationnisme,
oui,
bien sûr.
Je vous en prie, Aous.
Si vous permettez.
Laissez parler Aous.
Moi, ce que je pense, c'est que les mots ou les gestes n'ont peu d'importance. Ce qui compte, c'est le ton sur lequel, effectivement, les mots... c'est cool, ou de la façon dont on fait les gestes. Comme disait Nougaro, à Toulouse, on se traite de con à peine qu'on se traite.
Voilà.
Maintenant, selon comme tu dis à quelqu'un, tu es un con, ou, c'est une insulte, ou ça peut être, si tu veux, un petit clin d'œil, une petite bise d'humour.
À la Marseillaise. Donc, aussi. Comme les Marseillais qui terminent leur phrase par con.
Exactement. Bon, mais tout ce qui compte, c'est le ton. Donc ce qui compte, c'est effectivement ce qu'on met dans le trait d'humour. Si on y met ce qu'on veut y mettre, si on veut y mettre de la méchanceté, si on veut y mettre de la haine, ou si on veut y mettre tout simplement...
De l'humour.
De la sensibilité, ou faire un clin d'œil. Parce que quand on traite quelqu'un d'arabe, ça peut être très affectif. Dans certains cas. Puis dans d'autres, ça peut être très violent. Donc ce qui compte... C'est justement la finesse, et le talent, il est dans la finesse. Mmh. Voilà.
Bon, donc, cher directeur,
quant à la loi, comment peut-elle arbitrer effectivement le talent des individus.
Ce qui est inquiétant aujourd'hui, hors le fait du négationnisme, puisque ça, bon, ok, bon, ça c'est passible de la loi, on n'en parle plus. Et là, il suffisait tout simplement, Mabuse le disait, d'appliquer la loi, c'est-à-dire d'envoyer un huissier, constater, machin, et puis de le condamner 10 fois par spectacle, et puis terminer,
Et s'il n'est pas solvable, il y a la prison, c'est prévu par la loi.
Et puis il y a la prison. Non, moi ce que je trouve beaucoup plus inquiétant, si vous prenez de ces humoristes d'il y a 15 ans ou 20 ans, justement, tiens, des proches, par exemple, des Coluches, et quantité d'autres. Quand il y avait, j'ai perdu son nom, celui qui chantait L'emmerdant, c'est la rose, Thierry Leluron.
Thierry Leluron,
aujourd'hui, c'est un crime de lèse-majesté. Quand on prend Gainsbourg avec sa Marseillaise reggae, que d'ailleurs les militaires étaient intervenus, demander l'interdiction, etc.
Strasbourg, oui,
voilà.
La Marseillaise de Gainsbourg, c'est probablement de l'humour.
Non.
C'est de l'art, c'est une création, ça n'a rien à voir avec l'humour.
Oui, alors l'emmerdant, c'est la rose de Thierry Leluron.
C'est un plagiat, c'est le chansonnier, ça.
Oui, mais c'est
le chansonnier, ça fait partie
de... C'est le droit de rire de tout, de s'amuser de tout, parce que Gainsbourg aussi, avec sa Marseillaise, s'en était largement amusé. Et on pourrait multiplier les exemples pratiquement à l'infini. Ça conduit justement à ces crimes de lèse-majesté, où quand le je ne sais plus quel agriculteur dans je ne sais plus quel endroit, avait traité de Sarkozy de pauvre con. Dis-moi, c'est Sarkozy qui...
qui lui avait dit, voilà. Pauvre con, casse-toi.
Voilà.
Mais ça, c'est pas de l'humour.
Oui, mais où le... Comment ça s'appelle
Le paysan ou le
pêcheur, ou je ne sais plus quoi, s'était retrouvé condamné à 30 euros d'amende pour...
Pour crime de lèse-majesté, parce que Sarkozy manquait un peu, peut-être, d'humour.
Arrivé aujourd'hui, ça commence à poser sérieusement problème. C'est-à-dire que maintenant, l'humour, c'est comme au niveau d'ailleurs de ces lois mémorielles initiées par Guesso, où l'État prétend écrire l'histoire, maintenant l'État pourrait commencer à prétendre...
À régir l'humour.
On se retrouve, c'est Louis XIVien, ça. Pour faire inventer l'humour classique, comme il y a eu le théâtre classique, la danse classique, la peinture classique, etc. Et inventer l'humour classique avec des règles qui seraient inamovibles, font de quoi t'en as pas le droit.
Et cher Jekyll, vous avez remarqué que les humoristes, comme je le disais dans mon petit propos d'introduction, les humoristes eux-mêmes s'autocensurent et se réservent un terrain pour pratiquer l'humour sans danger.
Maintenant, je ne pense pas que Valls condamne l'humoriste ni l'humour. Valls condamne tout simplement un militant d'une cause plus que douteuse.
Alors, il n'y avait pas, à interdire son spectacle, il y avait, comme le disait Mabuse, huissier, constat, machin, et vu qu'il le dit 50 fois par spectacle, et 50 amendes par spectacle, et le mec, il était ruiné au bout de 10 spectacles, et puis on n'en parlait plus, il ne peut pas payer, ok, mais il fait de la prison, il n'en parle plus. Alors là, d'accord, là, dans ces cas-là, c'est atteinte à la loi et tout. Or, là, c'est un spectacle. Alors c'est une autre affaire, parce que à partir du moment où tu interdis un spectacle, tu commences à interdire un spectacle, alors pourquoi pas un autre spectacle
pour ça que je disais aussi les dictatures et les démocraties. Alors dans les dictatures, on comprend que les humoristes sont bâillonnés, mais dans les démocraties, jusqu'où on peut aller? C'est ça qui est intéressant, peut-être Mabuse. Jusqu'où on peut aller dans l'interdiction, où sont les règles?
Ah ben, si tu veux que j'évoque un point de vue tout à fait personnel, je pense que la censure ne peut aller nulle part. Moi, je pense qu'on ne peut pas en même temps se référer à un système dans lequel nous vivrions et où, dans la Déclaration des droits de l'homme, il est dit que nul ne peut être mis en cause ou mis en danger pour ses idées, son propos, etc. Dans une société où le premier principe de notre devise, c'est liberté, avant l'égalité et la fraternité, on ne peut pas en même temps expliquer toutes les mises en cause de la restriction de cette liberté. Donc je pense qu'on peut rire de tout, avec tout le monde, on peut tout dire, mais effectivement, sur le ton de l'humour, ce qui me semble être vraiment l'espace de liberté maximum, ce que j'expliquais tout à l'heure, et donc je suis d'accord avec ce que disait mon collègue, c'est le fait que il faut condamner des propos propagandistes négationnistes et pas l'humoriste ni l'humour qu'il pourrait éventuellement pratiquer et surtout pas son spectacle. Donc d'ailleurs Dieudonné ne s'y est pas trompé. Il a immédiatement dit mais moi je fais un autre spectacle
tout de suite.
Et puis la deuxième question qui a été posée tout à l'heure également, c'est est-ce que cet arrêté ministériel, cette circulaire, ne va pas créer une jurisprudence qui fait qui va-t-on toucher la prochaine fois? Et donc, on a ouvert, à mon avis, une boîte de Pandore qui me semble extrêmement dangereuse.
Alors, quoi de neuf, docteur?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur?
Alors, quoi de neuf, docteur ?